Paris. Comment le traumatisme a été surmonté? Pourquoi tant de Français de toute confession ont-ils donné pour permettre la reconstruction en un temps record?
Moi, j'ai reçu un appel de la maire de Paris qui faisait état d'un début d'incendie, mais quelques minutes avant 18h47, aucune personne n'avait encore appelé les secours pour un incendie à Notre-Dame.
Notre-Dame de Paris, 5 ans après, journée spéciale, c'est demain, lundi 15 avril, sur Europe 1. Très bonne soirée sur Europe 1.
Il est 19h sur Europe 1, le journal Guillaume Larriche. Bonsoir Guillaume.
Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous. Le G7 affirme son plein soutien à Israël et condamne unanimement l'attaque iranienne contre Israël. Les 7 puissances économiques dont la France et les États-Unis font partie et appellent les parties à la retenue, tout en disant être prêts à prendre des mesures contre l'Iran. Les gardiens de la révolution islamique ont envoyé plus de 300 drones et missiles la nuit dernière vers l'État hébreu. Sur place en Israël, la résilience s'impose chez les habitants. Écoutez Arié qui habite dans le nord de l'État hébreu.
Le problème dans ce genre d'action, dans ce genre de jeu idiot, pardonnez-moi, c'est le risque d'une erreur. Un missile aurait pu atterrir en Israël, aurait pu causer des dégâts considérables, auquel cas cela nous aurait obligés à rentrer en guerre. Nous, ici, dans le nord d'Israël, subissons des pluies de missiles quotidiennes depuis avant même le 7 octobre, mais encore plus depuis le 7 octobre, de la part du Hezbollah libanais. Et un jour ou l'autre, malheureusement, il se pourrait qu'un de ces missiles fasse des gros dégâts et nous oblige à rentrer en guerre. C'est là le danger. Cette haine qui s'abat sur nous, tout ça, ça fait mal. Et malgré tout, tout le monde se lève tous les matins et on essaie de continuer à conserver une vie, entre guillemets, le plus normale possible. Le mot résilience, je crois que c'est le mot qui s'applique le plus au peuple israélien actuellement, vraiment.
Réaction recueillie pour Europe 1 par Caroline Baudry. Et alors que la réponse d'Israël à l'attaque iranienne de la nuit dernière n'est pas encore connue, l'État hébreu a demandé la tenue ce dimanche d'un conseil extraordinaire de l'ONU. La police australienne semble écarter maintenant la piste terroriste dans l'attaque au couteau qui a fait 6 morts hier samedi dans un centre commercial bondé de Sydney au début des vacances là-bas. Connu de la police et de la justice, l'assaillant, 40 ans, abattu par une policière, était atteint d'une maladie mentale. En France, Romans-sur-Isère rend ce dimanche soir un dernier hommage à Zakaria. Ce jeune de 15 ans, tué d'un coup de couteau, voilà 5 jours, pour s'être interposé dans une bagarre. Le rassemblement en sa mémoire dans le quartier de la Monnaie a commencé voilà une demi-heure. Noémie Loisel, vous êtes sur place et l'émotion est vive actuellement.
Oui, c'est devant cet immeuble où cet adolescent a été poignardé quelques jours plus tôt que des amis et de nombreux habitants du quartier se sont rassemblés autour d'un goûter organisé par la famille pour se recueillir. Comme Ouria, encore ému, son petit-fils était ami avec Zakaria.
Là, on est obligé de se soutenir dans des moments comme ça.
C'était un gamin, mais exemplaire. Hein. Super gentil, super agréable. Ça n'aurait pas dû arriver, ça. C'est abominable. Abominable. Et j'espère que ce sera la dernière.
Dans l'enquête...
Une émotion très vive. Il y a quelques minutes, Philippe, un ancien policier municipal devenu l'éducateur du quartier qui s'occupe de nombreux jeunes, a pris la parole. Il a rappelé l'importance de se soutenir face à ce drame. De nombreux jeunes du quartier l'ont enlacé, les larmes aux yeux, encore choqués, puisque beaucoup d'entre eux ont vu leur ami mourir. Vendredi prochain, la famille et les habitants se recueilleront une nouvelle fois lors d'une marche blanche.
Et dans l'enquête sur cette affaire où Zakaria a perdu la vie, un père, ses deux fils et son gendre ont été mis en examen incarcéré. L'un d'eux a reconnu à demi-mot avoir porté le coup de couteau à la victime. Des attaques au couteau qui se multiplient à l'image de Bordeaux près du Miroir d'eau mercredi. Alors faut-il systématiser le port d'armes pour les policiers municipaux? Oui, répondent 59% des Français d'après notre sondage CSA pour Europe 1, CNews et le JDD. Si 77% des sympathisants du Rassemblement National souhaitent armer la police municipale, seuls 42% des soutiens socialistes et 43% chez les insoumis sont pour également. Le père de famille interpellé dans la mort de ses deux enfants en Essonne a été mis en examen et placé en détention provisoire pour assassinat. Face aux enquêteurs, l'homme de 34 ans a reconnu avoir tué sa fille de 3 ans et son fils de 20 mois. Les corps ont été retrouvés jeudi dans un champ à Forges-les-Bains, c'est au sud de Paris. L'autopsie démontre que les victimes ont reçu des coups de couteau de cuisine. Les sports à présent, le Masters 1000 de tennis de Monte-Carlo remporté pour la 3e fois par Stefanos Tsitsipas. Le grec s'est imposé facilement contre le Norvégien Casper Ruud 6-1, 6-4. On l'écoute, Stefano Tsitsipas.
Ça a été très difficile d'être de retour et de gagner le tournoi. C'est tout simplement incroyable. Je ne pourrai jamais assez remercier ma famille, mes amis qui ont fait en sorte que ce moment soit possible. Je leur suis très reconnaissant. La troisième est encore plus spéciale que la première ou la deuxième fois, donc c'est purement incroyable pour moi d'avoir décroché cette victoire aujourd'hui. C'était très angoissant. Je voulais vraiment la troisième. Je l'ai donc eue et je suis extrêmement heureux aujourd'hui.
Et pour les fans de la petite balle jaune, le premier tour de Roland-Garros arrive dans 42 jours. En rugby, il y aura bien un club français en demi-finale de la Champions Cup. Le Stade Toulousain s'est qualifié pour le dernier carré en battant cet après-midi les Anglais d'Exeter 64 à 26. Au prochain tour, le club du Sud-Ouest recevra en mai les Londoniens d'Harlequins.
Europe 1,
19h05. Très bon début de soirée avec vous, Nicolas Carreau, pour La Voix est libre.
Il y a deux choses redoutables. La première, c'est l'échec. Et la deuxième, c'est le succès.
19h, 20h.
La voix est libre.
Ouvrir un livre et rentrer dedans quand c'est une belle histoire, c'est un merveilleux voyage pour pas un rond, quoi.
Jamais on écrit pour être connu. C'est autre chose. C'est pour parler, certainement. C'est pour raconter quelque chose à quelqu'un.
Nicolas Carreau.
Bonsoir à tous et bienvenue dans La Voix est libre. Nous partons en road trip aujourd'hui d'Amiens jusqu'à la Haute-Savoie dans un Renault Trafic, vous allez voir. Visite de bibliothèque chez Richard Gottener, c'est chouette. Et puis à la fin de l'émission, les chroniqueurs de La Voix est libre nous rejoindront pour parler BD et littérature jeunesse. Mais d'abord donc, c'est l'invité. La Voix est libre, c'est parti. Premier chapitre. Mon invité, c'est Gonzague Pilon et son livre s'appelle Le Radiateur. Chez Lattès, l'histoire de Michel Dubiran, mais vous pouvez l'appeler Mitch. Pour l'instant, on lui donne du Monsieur Dubiran. C'est pas pour lui faire des ronds de jambes, c'est Maître Laborie, huissier de justice, qu'il l'appelle comme ça. Elle vient saisir les meubles, à moins que Mitch ne lui donne une partie de la somme qu'il doit à son propriétaire. Il manque une grosse partie des loyers. Il a pas fait attention, Mitch, c'est Clotilde, son ex. Elle a arrêté de payer sa moitié quand elle l'a quitté. Et lui, il a pas vu les courriers avec accusé de réception dans la boîte aux lettres. Tout simplement parce qu'il ne regarde jamais la boîte aux lettres. Pour ce que ça aurait changé, de toute façon, il n'avait plus de sous, même à ce moment-là. Il a un métier pourtant, relieur de livres, mais pas de travail en ce moment. Relieur, c'est pas ce qu'il y a de plus porteur de nos jours, faut admettre. Enfin, c'est pas la joie. Chapitre suivant, voici José, mon Jojo, pour sa maman, qu'il croit livreur de pizza alors qu'il fait plutôt dans le commerce de détail, c'est-à-dire dealer de shit. Ils vivent dans un quartier gris de la banlieue d'Amiens, sa mère fait ce qu'elle peut, c'est la dèche, et lui, José, son but, c'est de payer les études de sa sœur, passionnée d'architecture médiévale. Pourtant, c'était bien parti. Son père était soudeur et un très demandé, mais un jour, une citerne a explosé et lui a emporté une main. Après ça, dépression, alcool, etc. Bref, bonjour Gonzague Pilon.
Bonjour.
Alors, ça c'est la situation de départ. C'est bien quand on est au fond du trou avec des personnages, ça permet de se bouger pour faire autre chose. C'était un peu ça l'idée.
Parce tout
que
à fait.
C'est... Vous y allez franchement au début.
C'est... Ouais, on peut dire. Les deux personnages sont vraiment des galériens. Michel a tout perdu. C'est un ancien relieur qui a quitté son métier pour en occuper un autre qu'il aimait moins, pour pouvoir payer son loyer. Et puis sa femme l'a quitté, il a perdu son travail, il est sous antidépresseur, il est vraiment au fond du trou, comme vous me l'avez signalé. Et quant à José, c'est quelqu'un qui est dans les banlieues et qui essaye de s'en sortir, qui essaye de faire subvenir sa famille et puis de payer les études à sa sœur. En complément avec sa mère aussi, hein, qui tient aussi la famille à bout de bras en faisant des ménages à droite à gauche.
Femme forte. Et ça se passe au Pigeonnier,
c'est ça.
Qui est donc un quartier d'Amiens, dans la périphérie d'Amiens.
Absolument.
Parce que vous venez d'Amiens, c'est tout simple.
Je suis d'Amiens, absolument. Ouais. Et le Pigeonnier, ce sont les grands ensembles d'Amiens, ce sont les grandes tours qu'il y a au quartier nord, qui sont sorties de terre dans les années 60-70, je dirais. Qui sont assez folkloriques, on va dire.
Et vous avez décidé de prendre le vrai nom. Vous auriez pu dire ça se passe aux Tourterelles ou je sais pas.
Oui, non, j'ai préféré m'inscrire dans la réalité pour le coup, ouais, tout à fait.
Et vous les connaissez, Mitch et José?
Non, ce sont des personnages, c'est de création 100%. Pour le
c'est
coup.
Une création, mais alors donc, les deux copains décident de partir en Haute-Savoie. Je la fais courte, mais en fait, José a dû faire un tour là-bas pour emmener sa sœur visiter des monastères. Il a repéré qu'il y avait des vieux bouquins, il s'est dit ça doit coûter de l'argent. Et Mitch, qui est relieur et qui s'y connaît, lui a dit effectivement, ça dépend, faudrait que je vois, mais ça peut même être quelques dizaines de milliers d'euros si on se débrouille bien. Et donc, il décide de partir cambrioler des monastères là-bas et ils partiront avec le vieux camtar de Mitch, c'est-à-dire son camion, qui est en fait une camionnette, un trafic de 1984, c'est précis. Donc ça a l'air d'être du vécu aussi.
Alors, le trafic de 1984, effectivement, c'est un camion que je suis allé chercher quand... Il y a quand même un petit peu de moi dans Mitch, même si c'est de la fiction. J'ai quitté mon travail, j'ai fait un petit peu le chemin inverse de Mitch. Mitch a quitté un travail qui était le sien, qui était relieur, pour occuper un travail qu'il n'aimait pas. Et moi, j'ai occupé un travail que je n'aimais pas pour essayer de faire un métier que j'aime, qui est bouquiniste ambulant.
Et avant, c'était quoi ?
Avant, je travaillais dans des services de relations clients.
D'accord.
Tout simplement. Donc, je faisais la hotline, autrement dit. Et donc, j'ai quitté donc ce métier-là pour essayer de vivre de ma passion, les livres. Et j'avais besoin d'un camion, je suis allé chercher. Donc, je suis allé chercher ce fameux trafic dans le Massif Central. J'ai bien vu qu'il avait du vécu, mais en même temps, j'avais pas énormément de budget, donc je me suis laissé tenter. Et puis donc j'ai pris ce camion et je l'ai ramené sur Amiens tant bien que mal. Et voilà, j'ai commencé à faire ce métier.
Ouais, oui, c'est ça le truc, Gonzague Pilon. Vous êtes toujours avec nous sur Europe 1 pour parler du radiateur. C'est votre roman chez Lattès. Et ça s'appelle Le Radiateur parce que, premier problème, le vieux trafic de Mitch a son radiateur qui fuit. Un radiateur, c'est quand même très, très important. Et vous aussi, c'était ça l'idée? C'est pour ça que vous avez pensé au radiateur?
Ah, tout à fait. En fait, quand je suis rentré sur Amiens, j'ai fait deux, trois semaines de vente de livres. Et ensuite, j'ai voulu partir en randonnée dans le Vercors, pour le coup. Alors, il y a vraiment toute une partie Kirelle. Et en partant en randonnée, le radiateur, sur le chemin du retour, m'a lâchement abandonné.
Et l'aiguille de température est au max, dit Mitch. C'est bizarre. C'est pas bizarre, ça, ma gueule, répond José. Ça, c'est inquiétant, qu'on dit. T'avais remis du liquide de refroidissement avant de le remettre en route. Et donc voilà. Et il faut d'abord commencer par réparer le radiateur qui posera sans doute quelques problèmes après, puisque c'est un road trip. En fait, vous aviez envie de ça. Vous aviez envie de partir.
Tout à fait.
Et c'est pas mal le road trip quand on fait un roman parce que ça permet d'avancer tout le temps. Ça crée un moteur naturel.
Exactement, exactement. Et il y a, enfin, ils ont quand même un objectif. Hein, j'ai vraiment suivi une structure narrative vraiment classique. Ils ont un objectif qui est d'aller de gagner de l'argent et de se refaire, donc de payer des études pour José et de sortir un petit peu du trou pour Michel, hein, simplement, tout en gagnant de l'argent aussi. Donc ce sont les livres, l'objectif c'est le livre et le road trip. Oui, effectivement, parce que l'objectif est assez loin d'eux. Et j'aime la notion un petit peu du côté voyage initiatique, on va dire, du roman, en fait, et du côté road trip, en fait.
Parce qu'au début, Mitch, cambriolé des moines, il n'est pas très pour, mais il se déculpabilise en se disant que, de toute façon, les livres sont en train de pourrir et que lui, il est relieur. Et même s'il le fait quand même pour l'argent, ça permet aussi de redonner vie à ses livres. C'est pratique comme déculpabilisation.
C'est un professionnel de la déculpabilisation, tout à fait. C'est plutôt... Il se laisse convaincre facilement par José. José est quelqu'un qui travaille au corps, qui sait se montrer convaincant, ouais, on va dire. Il a cette idée-là en tête et il sait que s'il veut convaincre Mitch, il faut absolument trouver les arguments qui vont l'aider à devenir hors la loi, parce que c'est vraiment de ça dont il s'agit pour le coup. Alors que Mitch a toujours été dans les clous. Donc cette idée de taper là où ça fait mal, c'est-à-dire de voir des livres qui sont en train de se déliter alors qu'ils peuvent valoir beaucoup d'argent, ça, c'est un argument qui fait mouche. Enfin, Mitch est quelqu'un qui a un rapport quasi charnel avec les livres.
Hein. Il est un vrai passionné.
Il écrit que c'est un vrai passionné. C'est quelque chose qui l'a aidé à se construire. Et il a trouvé vraiment sa voie en faisant une interview avec un vieux maître relieur qui l'a mis sur les rails. Et ça a été vraiment le changement de sa vie, le premier gros virage de sa vie, pour le coup.
Oui, c'est un disciple d'un grand maître relieur qui est très connu dans le milieu et tout. Absolument. Ça. Et ça va lui permettre d'autres choses dans le roman ensuite, mais on va pas tout dévoiler. Simplement, pour l'instant, ce qui est pas mal, c'est qu'avec le road trip, comme ça, on part en Haute-Savoie, ça permet de créer un contraste avec la banlieue d'Amiens. Et en fait, c'est un contraste, mais en même temps, on rencontre, c'est ça aussi ce qui est bien, c'est qu'on rencontre tout un tas de personnes, et notamment Albert, qui est un personnage assez fabuleux et qui vit dans un endroit, si vous pouvez nous expliquer, qui est assez symptomatique aussi d'une région. C'est-à-dire que vous partez d'un endroit que vous connaissez bien, vous expliquez les problèmes qui se passent à cet endroit-là, et puis on arrive dans un autre endroit qui a l'air comme ça très sympathique et touristique, et en fait qui rencontre d'autres problèmes.
Tout à fait. Donc, ils vont passer par le Vercors, s'arrêter devant une nuit... devant un hôtel désaffecté.
Les Deux Sœurs, ça s'appelle.
C'est ça, c'est l'hôtel des Deux Sœurs, qui est un hôtel qui a vraiment existé. Hein, pour le coup, je m'y suis arrêté. Il y a toute une partie qui est vraie, c'est-à-dire que je pense que si vous y allez encore aujourd'hui, vous avez ce vieil hôtel avec toutes les vieilles voitures des années 70-80 qui sont devant, la station de ski avec les nacelles qui rouillent et qui grincent dans le vent qui sont devant.
C'est voilà. José qui dit, mais tu m'as emmené dans Retour vers le futur, en fait.
C'est ça, exactement. Et c'est presque post-apocalyptique comme scène. Et en fait, José, donc, se réveille tout seul là-bas, parce que Mitch a disparu à ce moment-là. Il se réveille tout seul là-bas et il va rencontrer effectivement ce personnage, Albert, qui est quelqu'un qui a hérité l'hôtel de son père. Le problème qui se présente dans cette région, en fait, c'est qu'il n'y a plus de tourisme, pour le coup, puisqu'il n'y a plus de neige.
Il n'y a plus de neige, donc il n'y a plus de station de
voilà,
ski.
Voilà, exactement, à basse altitude.
Il faut qu'on parle de livres encore, puisqu'il y a aussi tout un tas de vocabulaire sur les livres. Il faut que vous nous expliquiez tout ça, Gonzague Pilon. On se retrouve dans un instant sur Europe 1.
19h, 20h sur Europe 1.
La voix est livre.
Et on écoute Paul Simon sur Europe 1.
It's all inside your head, she said to me. The answer is easy if you take it logically. I'd like to help you in your struggle to be free. There must be 50 ways to leave your lover. She said it's really not my habit to intrude. Furthermore, I hope my meaning won't be lost or misconstrued. But I'll repeat myself at the risk of being crude. There must be 50 ways to leave your lover. 50 ways to leave your lover. You just slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. Just get yourself free. Or hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee, and get yourself free. New plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. You just listen to me. Hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee, and get yourself free. She said it grieves me so to see you in such pain. I wish there was something I could do to make you smile again. I said I appreciate that. And would you please explain about the 50 ways? She said, why don't we both just sleep on it tonight? And I believe in the morning you begin to see the light. And then she kissed me and I realized she probably was right. There must be 50 ways to leave your lover. 50 ways to leave your lover. You just slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. Just get yourself free. Or you hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee, and get yourself free. Slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. You just listen to me. Hop on the bus. Yourself free.
C'était Paul Simon sur Europe 1.
Europe 1, 19h-20h, la voix est libre.
Nicolas Carreau.
La Voix est Libre continue toujours avec Gonzague Pilon pour le radiateur. C'est chez Lattès et c'est l'histoire de Mitch et José, deux gars d'Amiens qui décident de partir en road trip pour se refaire financièrement parce qu'ils n'ont pas une thune. Ils prennent un vieux trafic, mais le radiateur était complètement pourri, donc ils ont été obligés de ressouder. Et puis ils partent avec ça, un vieux trafic de 1984. Et en fait, bon, c'est pas très glorieux, mais ils décident, en fait, ils sont partis pour cambrioler un monastère en Haute-Savoie qui abrite de vieux livres. Et ces vieux livres peuvent coûter un sacré paquet de fric. Et ça, c'est Mitch qui le sait parce qu'il est relieur. Et donc, Gonzague Pilon, dans le livre, il y a tout un tas de vocabulaire. Il y a beaucoup d'argot, on va en parler, mais il y a aussi tout un tas de vocabulaire très précis, d'expertise des livres. Et on parle d'incunable, de in douze, de in octavo. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu à quoi ça correspond, in octavo, in douze, par exemple?
Alors, ça, ce sont simplement les formats des livres de l'époque, en fait. Donc, des incunables. Un incunable, c'est un livre qui a été écrit avant l'invention de l'imprimerie, mais après les parchemins. On est vraiment entre les deux. Ce sont les premiers caractères qu'on est à... C'est l'ancêtre de l'imprimerie, en fait.
Le Moyen-Âge, quoi.
C'est exactement. Juste après le Moyen-Âge.
Juste avant 1500, quoi.
C'est ça, exactement. Et donc, dans les incunables, on a différents formats qui sont sur le marché. In octavo, in douze, in sedecimo, qui représentent en fait la taille de la page. Alors, j'ai plus exactement les tailles de page.
Le nombre de fois où on a plié la page.
C'est
fait.
Ça, exactement. Qui définissent en fait tel ou tel type d'ouvrage.
Alors, j'aime bien parce que donc Mitch, c'est un spécialiste de ça. Et puis, José voit des livres en visitant un monastère et il demande à Mitch si ça peut pas valoir de l'argent. Il se trouve que oui, mais souvent, quand on voit un vieux livre, alors que, bon, malheureusement... On lit beaucoup moins qu'à une certaine époque. Mais bon, quand on voit un vieux livre, les gens ont tout de suite l'impression que ça coûte beaucoup d'argent. Alors que c'est en fait assez rare un livre qui coûte de l'argent. Mais comment, vous qui avez été bouquiniste, qu'est-ce qui peut faire la différence? Qu'est-ce qu'il faut regarder?
Ce qu'il faut regarder, c'est la date, en premier lieu, la date d'impression. C'est ce qui va déterminer la rareté de l'ouvrage. Après, pour répondre précisément à votre question, avoir un livre qui vaut plus de 1000 euros, il faut être vraiment sur des livres très anciens. On va être justement sur des incunables ou sur les premiers livres qui ont été sortis après 1500, qui là vont valoir très cher.
Si c'est les Trois Mousquetaires, c'est sûr que ça ne coûtera pas 1000 euros.
Exactement. Et ensuite, dans certaines collections, enfin voilà, je pense que tout le monde le sait, mais on prend Hergé en bande dessinée, par exemple, il y a certaines éditions qui sont sorties entre telle et telle année qui ont été plus rares parce qu'il peut y avoir un défaut d'impression ou autre. Si ce sont des auteurs très connus, qui peuvent valoir beaucoup d'argent. Mais non, il faut dire à vos auditeurs que la majeure partie des livres, en général, dépassent rarement pour les plus chers, 90 euros, on va dire.
Tant mieux, tant mieux. Il y a beaucoup d'argot. Alors, le camtar, il revient souvent, ça c'est le camion, ça c'est fastoche. Mais il y a blairé, sans pour sentir. Il y a asi à la place de vas-y. Il y a on snatchave. Il y a à la fois un peu d'argot de banlieue mixé avec un peu d'argot de Audiard. Je ne sais pas si c'est vous qui créez ce langage pour le livre ou si vous le sortez de vos observations acoustiques, mais j'ai l'impression qu'il y a un mélange quand même.
C'est un mélange de beaucoup de choses, effectivement. C'est plutôt, ça relève presque de la brève de comptoir pour le
oui,
coup.
Voilà.
C'est vrai que je me suis, j'aime beaucoup écouter les gens parler. J'ai fait de la musique par le passé, dans le pigeonnier justement, où on fréquentait les rappeurs et on fréquentait aussi les punks, etc. Il y avait beaucoup d'argot, un mélange de plusieurs types d'argot justement, jusque au louchébème. Enfin bref, il y avait vraiment beaucoup de types de langages différents qui passaient. Et ça m'a toujours beaucoup amusé d'entendre toute cette gouaille pour s'exprimer. Donc c'est vrai que le parler de José est un petit peu un mélange de tout ça, de tout ce que j'ai pu entendre pour le coup.
Et alors, il y a le rapport au livre des moines avec, et leur rapport au livre. C'est-à-dire que pour Mitch et José, ce sont des livres qui pourrissent et qui servent à rien. Et effectivement, ils se font passer pour des randonneurs et ils essayent d'aller piquer les bouquins. Je ne raconte pas comment ça va se passer. Mais en fait, effectivement, les moines ne sont pas toujours en train de regarder ces bouquins-là, mais ils les conservent. Ils sont là pour ça, en fait. Ils sont là pas pour les regarder sans arrêt, mais pour les conserver à l'abri de l'humidité. C'est tout.
Tout à fait. Chose que, pour le coup, au monastère dans lequel ils se rendent, ils ne font plus. C'est vrai que Mitch s'aperçoit tout de suite, quand il arrive, que les livres sont vraiment en train de se déliter. Donc, mais leur mission première, effectivement, aux moines, c'était de conserver ce savoir et de le passer aux générations d'après, tout à fait.
Mais on sent que vous vous êtes renseigné sur le sujet, parce que vous ne l'avez pas fait chez un bouquiniste, le cambriolage. Vous l'avez fait chez des moines. Les moines qui sont ceux qui recopiaient les bouquins avant l'invention de l'imprimerie, justement.
Tout à fait.
Vous aviez envie d'être dans Au nom de la rose, quoi.
Il y a un petit peu de ça. Je fais beaucoup de randonnées et je découvre toujours des endroits insolites, l'hôtel des deux sœurs notamment. J'étais aussi passé par les Vosges et dans les Vosges, il y a le Mont-Saint-Odile, en haut duquel il y a un monastère, je crois, ou un couvent, je ne sais plus bien, une abbaye peut-être. En tout cas, un édifice religieux dans lequel il y avait eu des cambriolages de livres rares, de livres religieux rares, en fait. Et ça a été aussi une source d'inspiration pour moi. C'est quelqu'un qui avait presque réussi à voler, je crois que c'était comme une cinquantaine de... faudrait vérifier, mais une cinquantaine de livres pour les restaurer. Vraiment, c'était dans le même but. Et ça a été vraiment une source d'inspiration. Et c'est vrai que si on veut trouver du livre rare, on va forcément, et c'est ce que dit Michel à un moment, on va forcément taper dans le livre religieux. Voilà, à partir de 1500, le premier livre que Gutenberg a imprimé, c'est une Bible. Ça donne un petit peu le ton, quoi.
Alors, il y a aussi les titres de chapitres, va falloir qu'on en parle. Si tu vis les yeux fermés, faut pas t'étonner de tout le temps de cogner. Ça, c'est un titre de chapitre. C'est pas une fuite, c'est un suintement. Bon, après, il y a les titres plus classiques, mais vous êtes bien amusé avec les titres de chapitre. On en parle dans un instant. Tout de suite sur Europe 1.
Les 8 batteries de patriotes dressent leurs missiles vers le ciel.
À Dunkerque et dans la Marne, la colère est toujours là.
On a déjà eu la jacquerie des gilets jaunes contre la taxe carbone. Si on veut la révolution, il n'y a qu'à continuer.
Aujourd'hui, mon fils est décédé. Si ces mesures avaient été prises il y a déjà longtemps, peut-être qu'il serait encore avec nous.
On réduit tous les hommes à des agresseurs sexuels.
Faut-il s'inquiéter pour la sécurité des Jeux Olympiques?
Cet antisémitisme qui s'attaque aux Juifs s'attaque aussi à la France.
Il me met l'arme sur le ventre, il me dit « tu fais le malin, je t'allume ».
Je m'attendais à la détester, cette femme. Et en fait, j'ai vu entrer dans la salle une personne qui était presque tout aussi victime que moi. Donc, je vous remercie de me permettre d'en parler.
Europe 1, avec vous.
Tu fais quoi, mardi ?
Désolée, je suis pas dispo.
Ah ouais ? Pourquoi ?
Car
quoi ? T'as mieux à faire, c'est ça ?
Car
t'as un dégât des eaux, car t'as un dîner chez mamie.
Mais non, car ! Les quarts de finale de l'UEFA Champions League, quoi !
Ah, ok, je peux venir ?
Retrouvez les quarts de finale retour de l'UEFA Champions League avec Barcelone, Paris SG, mardi à 21h sur Canal Plus Foot et Manchester City, Real Madrid, mercredi à 21h sur Canal Plus et Canal Plus Foot. Rendez-vous sur boutique.canalplus.com.
Quand vous avez un brise-glace, ça vous paraît compliqué à gérer ? Avec Carglass, c'est simple. Allez direct sur carglass.fr. En quelques clics, vous l'avez votre rendez-vous. Comme on est agréé par la plupart des assureurs, on vous accompagne dans les démarches avec votre assurance. Et comme la majorité de nos clients, il n'y a pas de franchise à payer. Oui, oui, zéro franchise. En plus, jusqu'au 10 mai, pour toute intervention par brise, Carglass vous offre des balais d'essuie-glace Bosch. Prenez rendez-vous dès aujourd'hui sur carglass.fr.
Carglass répare, Carglass remplace.
Conditions sur carglass.fr.
19h, 20h, la voie est libre.
Nicolas Carreau.
La Voix est libre continue, toujours avec Gonzague Pilon pour Le Radiateur, un roman hilarant et un road trip de deux copains, Mitch et José, qui partent d'Amiens, bien décidés à se faire de l'argent en allant cambrioler un monastère où il y a des vieux bouquins. Et ils ont décidé qu'ils allaient les remplacer par des bouquins qui valent pas grand-chose, mais qui ont l'air très vieux aussi. Et donc, ils se font passer pour des randonneurs et ils vont essayer de cambrioler ces bouquins parce qu'ils ont besoin d'argent. José pour payer les études de sa sœur et Mitch pour payer son loyer, tout simplement, tout en se déculpabilisant, en se disant que ses bouquins étaient en train de pourrir. Et comme Mitch est relieur, il va pouvoir les restaurer bien comme il faut. C'est pratique, la déculpabilisation. Gonzague Pilon, vous êtes toujours avec nous. Et dans votre livre, donc on l'a dit tout à l'heure, qui mêle argot d'Audiard et aussi argot de Cartier, vous êtes bien amusé avec les titres de chapitres. Il y a Objectif Thune, il y a Palais de la Somme, Dernier Étage, Les Aigles ne volent pas avec les pigeons. Tout ça, ce sont des titres de chapitres. Vous les avez trouvé retrouver après la rédaction en redécoupant par chapitre, ou alors vous vous êtes vous commenciez chaque séance d'écriture par un nouveau chapitre en l'intitulant comme une nouvelle.
C'est après la rédaction que j'ai trouvé les titres, puisque chaque titre est un extrait du chapitre qui suit, en fait. C'est une phrase que j'extrais, soit du dialogue, soit de la narration, mais c'est quand même un roman où il y a beaucoup, beaucoup de dialogue, pour le coup. Donc, les trois quarts du temps, je pense que ça doit être une phrase de José qui fait office de titre, pour le coup.
C'est aussi un roman, c'est une sorte d'hymne à l'analogique. C'est-à-dire qu'il n'y a quasiment pas de numérique, quasiment pas de technologie, pourtant ça se passe de nos jours. Mais comme c'est un trafic de 84, il n'y a pas d'électronique, il n'y a même pas de GPS. C'est un GPS à l'ancienne, dites-vous dans le livre, c'est-à-dire un Bristol avec les noms des villes à traverser. C'est vrai que c'était aussi simple, quoi.
C'était aussi simple.
Vous aviez envie d'une balade non numérique, quoi.
Dans leur tête, ils peuvent, si jamais ils se font attraper, ils peuvent se faire tracer par les téléphones portables, les smartphones qui vont borner. Donc ils décident de partir sans les téléphones. Ce qui fait qu'effectivement, ça rend un voyage complètement anachronique, pour le coup, où on part avec les cartes dans le vieux trafic de 1984, où donc, comme on faisait à l'époque, ça arrive de se perdre, de se tromper de route, et de tomber sur des endroits insolites. Ouais, c'est ça, tout à fait.
C'est qui Altaïr ?
Altaïr, c'est un ami très proche, c'est mon frangin, hein, en fait, qui est aussi mécanicien.
Le livre lui est dédié ?
Absolument, qui est mécanicien de son métier, et c'est lui qui m'a aidé à réparer le radiateur. Donc je l'ai accompagné dans cette tâche, et on a remis le trafic sur pied après que j'ai eu ce problème.
Le radiateur, c'est le titre de votre roman, Gonzague Pilon, mais pourquoi vous avez choisi justement le radiateur comme titre ? Parce qu'effectivement, il apparaît, il est là, il est important. Mais pourquoi le mettre à ce point-là en avant, en lui donnant carrément la couve, quoi ?
Alors,
ça aurait pu être le trafic, ou ça pourrait être Mitch et José.
Je voulais un titre qui se prenne pas du tout au sérieux, et je trouvais qu'avec le radiateur, c'était plutôt réussi, tout en parlant de choses sérieuses quand même. Donc c'était le premier point, c'était ça. Et puis deuxième point, ça fait un petit peu partie, je dirais, de l'ironie dramatique, c'est-à-dire on a la base, on sait qu'on a deux personnages qui partent en trafic. Pourquoi ça s'appelle le radiateur ? Il va forcément se passer quelque chose et que les personnages ne savent pas encore. Voilà, je voulais aussi jouer là-dessus en le mettant dans le titre, ça permettait de faire ça.
Comment vous écrivez ? Est-ce que vous avez une discipline d'écriture ? C'est votre premier roman ? Premier roman publié ? Est-ce qu'il y en avait d'autres avant ? Est-ce que vous écrivez depuis longtemps, tous les jours ? Comment ça s'est passé le premier roman ?
J'écris depuis longtemps, j'ai un ou deux romans dans les tiroirs que j'avais essayé d'envoyer il y a quelques années, et j'ai eu des lettres de refus quand on répondait, pour le coup. J'ai fait quelques concours de nouvelles aussi. J'écrivais des textes aussi, je faisais de la musique, je jouais dans un groupe de métal, et j'ai eu des problèmes auditifs. Ce qui fait que l'exutoire que j'ai trouvé, c'était l'écriture. Et à partir du moment où j'ai commencé à arrêter la musique pour vraiment me consacrer à l'écriture, j'ai essayé d'adopter une routine de travail. Quand je peux, d'écrire 2 à 3 heures par jour.
Ah oui.
Le matin, oui, c'est ça.
Le matin, forcément le matin.
Tous les matins, oui, tout à fait.
Vous ne pouvez pas écrire l'après-midi ou le soir. Et vous savez pourquoi ?
Je ne peux pas vous dire, sûrement parce que je suis frais le matin, la feuille est vierge, comme on dit, donc ça permet, on est frais, et ça permet de, voilà, on n'est pas pollué par les stress de la journée, les interactions et autres. Je pense que c'est lié à ça.
Vous écrivez en silence ou avec de la musique ?
Les deux.
Ah, vous pouvez faire les deux ?
Je peux faire les deux.
Et au bistrot ou chez vous ?
Par contre, il faut que je sois tout seul.
Ah oui,
ça, c'est impératif, il faut que je m'enferme. Alors, soit en silence, soit je mets un petit peu de musique d'ambiance, s'il y a un bruit qui peut me perturber à l'extérieur. Mais par contre, tout seul, ça, c'est impératif. Ouais.
Et qu'est-ce que ça change de l'avoir édité ? Est-ce que vous avez fait le tour des librairies pour voir s'il était bien en place ? C'est quelque chose quand même, le premier roman.
C'est formidable. Alors déjà d'être ici, j'en profite pour vous remercier de me recevoir. Déjà d'être ici, c'est incroyable. Je suis vraiment sur un nuage pour le coup. Je suis allé voir dans les librairies s'il y était. C'est un aboutissement. Vraiment, c'est un aboutissement. Enfin, je pense qu'on écrit pour ça, pour être édité. Alors, pas, en l'occurrence, pas pour parler de soi, mais pour passer un message. Mmh. Et voilà, pour moi, c'était important, effectivement, de, d'être édité. Ça permet justement de passer ces messages. Ouais.
Est-ce que vous avez déjà des retours de lecteurs, y compris des proches, qui peuvent se reconnaître? C'est un peu... Il y a ça, souvent, quand on publie un roman, il y a des proches qui disent « Ah, ben ça, c'est moi qui t'ai donné l'idée », ou des choses comme ça.
Pas encore. J'ai eu quelques retours de lecteurs qui m'ont dit qu'ils avaient beaucoup apprécié le roman, le fait que ça va vite, qu'il n'y ait pas de temps mort, pour le coup. Mais j'ai pas eu de retour de proches encore. J'ai eu un retour d'Altaïr qui m'a bien sûr remercié, qui a reconnu en fait les parties mécaniques sur lesquelles on a travaillé. Mais pour le reste, non, pas encore beaucoup de retours.
Vous pensez à Mitch et José de temps en temps, vos personnages?
Oui, j'y pense. Après, ils m'ont accompagné tout le long du roman. Et une fois que le point final a été posé, voilà, peu à peu, je les ai.
Vous savez pas ce qu'ils deviennent, quoi.
Pour l'instant, non. Je suis parti, voilà. Je continue d'écrire et je suis parti sur d'autres personnages. Et pour l'instant, je les ai laissés là où ils étaient, pour le coup.
Ils sont très attachants, Mitch et José, qu'on peut suivre donc dans Le Radiateur, votre premier roman et sans doute pas le dernier. Gonzague Pilon, merci beaucoup d'être venu sur Europe 1.
Merci encore de m'avoir reçu.
Dans un instant, oh, on part chez Richard Gottener, dis donc.
Europe 1, 19h-20h,
La Voix est libre.
Et on écoute Primitif, Richard Gottener sur Europe 1. Richard Gottener, donc, sur Europe 1. Alors, parfois, pour les visites de bibliothèque, j'y vais parce qu'on m'a suggéré d'y aller. Et puis, un jour, mon copain Damien me dit « Et Richard Gottener, t'as essayé? Il doit avoir une belle bibliothèque. » Alors, j'ai demandé à Agnès Vaudin, qui connaît tout le monde, qui a tous les contacts. Une heure plus tard, elle me dit « Ça tombe bien, il a un spectacle en ce moment. Il tourne un peu partout. Ça s'appelle « Gottener ramène sa phrase » et il ne chante pas. Il dit, il raconte ses chansons. Allez voir, c'est très étonnant. » Et donc, Agnès me dit « il est OK pour la bibliothèque, mais ses livres sont chez lui, dans le centre de la France. Qu'à cela ne tienne, on y est allé, j'étais trop curieux, de voir de quel livre il se chauffe. Bonjour Richard Gottener.
Bonjour.
Merci de nous accueillir chez vous. On a fait du chemin, c'est pas souvent, c'est très rare, mais j'avais envie de venir parce que vous m'avez dit que vous aviez tous vos livres chez vous, dans le centre de la France à peu près, on va pas donner trop de détails, mais on est au milieu de la campagne, quoi. Et puis le meuble, vous avez fait une bibliothèque vous-même ?
Ouais, moi j'aime bien, j'ai dessiné ma cuisine, j'ai dessiné mon salon, j'ai dessiné tout ça. Alors il faut des bons artisans. Ce que j'ai trouvé ici, près de chez moi. Mais c'est moi qui ai dessiné, effectivement. C'est pas moi qui fais, c'est moi qui dessine.
Et comment ils viennent d'où, ces livres-là ? C'est des livres d'enfance ? Vous en achetez beaucoup ? C'est quoi votre rapport au livre, l'objet ?
Bah, y a un mélange de plein de trucs. Il y a des livres... cette bibliothèque reçoit des livres qui étaient encombrants par ailleurs. Il y a les livres que je lis. Il y a les livres que je vais lire. Il y a des livres, par exemple, vous avez là une collection d'encyclopédies. Je ne mettrai jamais le nez là-dedans, mais ça fait très joli sur les étagères. Il y a mes Robert, si j'ose dire. Il y a mes Robert, c'est le Robert en 7 volumes, ce qui est un cadeau de ma maman, avec un petit mot en préface et tout ça, qui m'ont servi beaucoup, beaucoup, beaucoup à écrire. Beaucoup de mes chansons.
C'est-à-dire, vous utilisez le dictionnaire pour écrire vos chansons ?
Le Robert, oui, ouais, bien sûr. Le Robert, c'est un dictionnaire analogique et c'est un dictionnaire très ludique parce que vous mettez le nez dedans sur un mot, il vous renvoie à un autre mot, à plein d'autres mots d'ailleurs, et vous pouvez passer votre journée à passer d'un mot à l'autre. Ce qui permet de trouver le mot exact, le mot juste pour chaque chose. Quand vous ne connaissez pas le mot, dans le Robert, vous allez le trouver.
Il y a tout un tas de poches et de livres communs. Là, il y avait les beaux livres, les livres anciens, mais là, vous m'avez sorti des vieux numéros de la série noire. Vous êtes un fan de la série noire, ils sont d'époque, ceux-là.
Alors, j'ai un copain qui m'a mis le pied à l'étrier sur un truc. C'est Albert Simonin. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, Albert Simonin, c'est le père, on va dire, de Audiard. C'est le père de Frédéric Dard. C'est lui qui a posé le premier l'argot et tout ce langage fleuri. C'est lui qui a ouvert cette voie-là.
Grisby, or not Grisby, une balle dans le canon, entre autres titres d'Albert Simonin. Le
rebif, Durififi chez les hommes. Ah non, ça c'est Auguste Le Breton. Ben, c'est pareil, Auguste Le Breton, c'est aussi c'est la même famille. Hein. C'est, voilà. Et ça, moi j'adore ça.
Et comment vous avez découvert Albert Simonin ?
Ben, c'est un copain qui m'en a parlé, qui est très amateur, et qui m'a dit, tiens, lis ça. Il m'a prêté un bouquin. Alors, c'était... j'ai dit, le CAF se rebit, moi j'ai vu le film et tout, lis ça, tu vas voir. Et en fait, c'est magnifique, quoi.
Vous avez un livre, un écrivain que j'aime beaucoup, que vous avez sorti exprès, là. C'est le livre qui s'appelle « Et quelquefois, j'ai comme une grande idée », qui a été traduit pour la première fois assez récemment, il y a 4-5 ans, par les éditions Monsieur Toussaint L'Ouverture. Mais on connaît plus l'auteur Ken Casey, qui est l'auteur de « Vol au-dessus d'un nid de coucou ».
C'est ça, c'était pour votre venue, je voulais trouver... Vol au-dessus d'un nid de coucou, que j'ai évidemment... C'est un de mes films préférés hein, au monde. C'est dans ma trilogie de mes films préférés.
Avec Jack Nicholson, notamment.
Notamment, et puis cette infirmière qui est magnifique, qui est méchante au possible. Enfin, et en cherchant Vol au-dessus d'un nid de coucou, je suis tombé sur ce bouquin de Ken Kesey, et je ne l'ai pas lu, celui-là. Et je l'ai sorti parce que... J'aime l'écrivain, donc je me dis que ça devrait être pas mal.
Vous avez toute la collecte, j'ai l'impression, des Romain Gary.
J'aime beaucoup Romain Gary. J'aime beaucoup Romain Gary. J'ai découvert d'ailleurs, il y a un truc, personne n'en a jamais, je n'en ai pas entendu parler. C'est lui qui a trouvé, je l'ai trouvé 3 fois dans ses bouquins, La Force Tranquille.
Ah, de Mitterrand.
Ouais. qui soi-disant, c'est Yéla qui aurait trouvé l'idée. Mais moi, je l'ai trouvé. Romain Gary, je l'ai trouvé trois fois dans les bouquins.
Et pourquoi vous aimez Romain Gary à ce point ?
J'ai été gaulé, évidemment, par La vie devant soi. Alors, La vie devant soi, pour moi, c'est un chef-d'œuvre absolu. Parce que il y a un style, une façon de parler de cet enfant, parce que c'est un enfant qui parle, qui est absolument, qui est naïve, qui est pleine d'inventions et tout ça, mais qui dit des choses extrêmement profondes, extrêmement, qui sont superbes, quoi. Et cette différentiel qu'il y a entre la naïveté du discours et la profondeur du propos, ça crée quelque chose de magique.
La vie devant soi, signé Émile Ajar au départ. C'est la supercherie de Romain Gary, évidemment. Émile Ajar, c'était son pseudonyme. Ça, je suis sûr que ça vous a amusé, le coup du Goncourt qu'il a remporté deux fois grâce à son pseudonyme.
Il était tellement brillant, ce mec, que... Parce qu'on ne peut pas imaginer qu'il ne l'a pas fait avec un plan d'attaque. S'il l'a fait en disant je vais tous les niquer. Et en fait, c'est ça. C'est qu'il est, il a fait un roman, il a fait un. Comment dirais-je ? Il a écrit un bouquin pour décrocher un deuxième Goncourt qui, normalement, il n'aurait pas dû avoir. Quoi.
Il l'a fait aussi un peu pour se marrer. Et tout le monde a pris ça très au sérieux. C'est devenu un peu grave au moment du deuxième Goncourt. Ouais. Et c'est pour ça aussi que je vous amenais là-dessus. C'est que vous avez ce côté-là, vous, anti-esprit de sérieux.
Ouais, le côté un peu canular, vous voulez dire. Enfin là, il est arrivé à tellement un degré de perfection dans ce bouquin que ça dépasse quand même un peu le canular. Hein.
Oui, non, mais c'est pas ce que je veux dire. Mais c'est le côté, c'est pas grave, les gars, on est là aussi pour s'amuser, quoi.
Oui, bah, bien sûr, évidemment. Bien sûr.
Arrêter les drames, quoi.
Oui, bien sûr. Ben ça, alors surtout en ce moment, hein, avec les réseaux sociaux et tout, on est confronté à ça tous les jours.
Juste à côté, il y a les brèves de comptoir du camarade Jean-Marie Gouriot.
Oui, ça c'est magique, ça c'est rigolo. Lecture de cabinet par excellence, mais qu'est-ce que c'est drôle, ça. Il y a vraiment beaucoup de choses là-dedans. Chez le rouge-gorge, c'est le mâle qui pond.
C'est un sous-marin qui s'appelle le Redoutable et dedans ça sent la chaussette.
L'animal domestique t'en mange pas et les produits domestiques t'en bois pas. Ouais, enfin bon.
Ah non, attends, celui-là est super. L'Afrique, ce qui lui manque, c'est les nuages, sinon il y a tout.
J'ai dû en lire deux des bouquins de brèves. Et j'ai vu le spectacle aussi. Et c'est magnifique. C'est vachement bien. Ça marche très, très bien. Quoi.
Vous avez beaucoup de bandes dessinées. Il y a beaucoup de Tintin et beaucoup de Gottlieb. Gottlieb, j'en étais sûr. Tintin, c'était dans votre enfance ?
Bah, Tintin, c'est pas qu'il y a beaucoup de Tintin, c'est qu'il y a tous les Tintins.
Ils sont tous là ?
Ah, ils sont tous là, ouais. Si vous en trouvez un qui manque. Peut-être que chez les Soviets, je ne l'ai pas, je m'en fous.
Ah oui, mais c'est un peu spécial.
Un peu spécial. Non, mais évidemment. Dernièrement, j'ai révisé Objectif Lune. Je me prépare à On a marché sur la Lune. Je relis. Et alors, d'abord, c'est très rafraîchissant parce que c'est d'une. C'est. Enfin bon, il y a une espèce de fraîcheur quand même dans. Et je regarde. Beaucoup plus les dessins que ce que j'avais fait peut-être à l'époque, quand j'étais petit. Et je me dis, mais c'est un grand dessinateur quand même. Hein. C'est un fou furieux même.
Vous les relisez régulièrement, chaque année, tout le temps, ou est-ce que vous avez des phases comme ça ?
Non, c'est des phases. Il faut quand même plusieurs... laisser passer plusieurs années pour les reprendre quand même. Enfin bon. Mais alors surtout, là où le roi de la bande dessinée pour moi, c'est Monsieur Marcel Gottlieb. Alors lui, c'est un peu le Coluche de la bande dessinée. Hein. C'est un mec qui a enfoncé qui a ouvert des portes, qui a ouvert des voies. C'est magnifiquement dessiné. C'est un esprit frondeur. Enfin, c'est déconnant, c'est magnifique, moi, je trouve. Enfin, bon. Et ça m'a inspiré quelques chansons. Hein.
Ah, par exemple ?
Ben, Paul Auchan Blues, par exemple, il y a quatre planches qui sont directement... qui m'ont donné envie d'écrire ça. Il y a Alléluia. Je raconte ça dans mon spectacle, d'ailleurs.
Rubrique à braque, rien que ça, c'est... Ça sonne aussi.
Dans les rubriques Herbach, il y a des choses qui m'ont inspiré. Puis après, il y a toute la deuxième période, on va dire, fluide glacial, et tout ça, où on est plus. On est un peu plus.
Margerin, Lucien, tout ça.
Ah non, ça c'est encore autre chose. Moi j'aime beaucoup ça, Margerin. C'est un pote d'ailleurs, j'aime beaucoup Margerin. Il fait beaucoup rire. J'ai fait, évidemment, je me suis fait tous les Astérix. Mais là, je n'ai pas recommencé les Astérix. Il faudrait que... Voilà.
C'est beaucoup des...
Super, que j'adore, qui est vraiment... Qui est un fou furieux, c'est Reiser. Ça, c'est... J'adore... Alors lui, c'est la... Comment dirais-je ? La précision du dessin approximatif. On a l'impression que c'est fait que d'orature et tout ça.
Exactement ça, à peu près.
Mais c'est sublime, quoi. Le geste est toujours le comment dirais-je, le en
on peut pas décrire.
On peut pas, non.
Mais il faut lire Reiser, Dessin Cochon, vous verrez par vous-même, c'est chez Albin Michel.
Et non, c'est magnifique, j'adore. Tiens, je vais le laisser sortir, je vais le refaire celui-là.
Merci beaucoup Richard Gauthier.
Bah écoutez, c'était un plaisir.
Retour en studio à Europe 1. Merci encore à Richard Gauthier. Et je rappelle le nouveau spectacle. Gauthier ramène sa phrase en tournée. Et puis, je vous le dis en passant, parce qu'il fait partie du jury, le prix Gottlieb vient d'être décerné. C'était hier au Festival du Livre de Paris. Décerné donc à MOCDM de Fluide Glacial pour Tirer sur mon doigt, Monsieur le Président. Deuxième prix Gottlieb. Dans un instant, encore des livres, romans jeunesse et bande dessinée. À tout de suite.
Le 15 avril 2019, Notre-Dame de Paris brûle.
J'ai vu beaucoup de gens très émus, et c'est vraiment désastreux.
La France entière et le monde assistent impuissants au drame.
Il y a déjà des centaines, peut-être même un millier de personnes.
Cinq ans après,
Europe 1 se souvient.
Impossible de quitter des yeux l'édifice en flammes.
Demain, Europe 1 consacre une journée spéciale à Notre-Dame.
Comment le traumatisme a-t-il été surmonté ? Pourquoi tant de Français, de toute confession, ont-ils donné pour permettre la restauration ?
Nous rebâtirons la cathédrale Notre-Dame plus belle encore.
Notre-Dame de Paris, 5 ans après. Journée spéciale demain sur Europe 1. Savez-vous comment on reconnaît une insuffisance cardiaque ? Non ? Vous n'êtes pas seul. Parce que des centaines de milliers de Français qui vivent avec cette maladie ne le savent pas non plus. Essoufflement inhabituel ? Prise de poids rapide ? Pieds et chevilles gonflés, fatigue excessive. Si vous constatez un ou plusieurs de ces signes, surtout après 60 ans, vous souffrez peut-être d'insuffisance cardiaque. Parlez-en à votre médecin.
L'assurance maladie.
Europe 1, 19h, 20h, la voix est libre.
Nicolas Carreau.
Les voici, les voilà, lus et approuvés, le kiosque des chroniqueurs de La Voix est libre, avec notre libraire, le génial Christophe Daniel, librairie La 25e Heure, place du Général Beuret à Paris, 15e, Héloïse Goua, littérature jeunesse, non moins géniale, et le camarade Sébastien, je vous voyais, Sébastien Bordenave pour la bande dessinée, immense Bordenave. Bonjour à tous les trois, bonsoir à tous les trois.
Bonsoir Nicolas, voilà. Qui est votre préféré? Autant qu'on le sache tout de suite.
Il dirait hors antenne. J'en ai un. Honneur au libraire quand même. De quoi nous parlez-vous, Christophe ?
Alors moi, je vais vous parler d'un polar formidable. Un premier roman d'un auteur espagnol qui s'appelle Marto Pariente. Le roman s'appelle La sagesse de l'idiot et c'est publié dans la série noire chez Gallimard. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte Marto Pariente ? Il va nous parler de Tony Trinidad. Tony Trinidad, c'est un... un type un peu simplet qui est le policier local d'un petit village paumé au fin fond de l'Espagne.
Genre shérif, quoi.
Un petit peu, ouais. Sauf que sa fonction est un petit peu critiquée par les habitants du village. En gros, il sert pas à grand-chose. Et puis lui, il aspire surtout à ce qu'on lui foute la paix. Une vie tranquille, c'est tout ce qu'il demande. Et puis alors, il a un léger handicap pour un policier, c'est qu'il s'évanouit à la vue du sang.
Ah ouais. Hématophobe.
Voilà, exactement. Donc ça lui pose quelques petits problèmes dans sa fonction. Et puis il a pour toute famille une sœur, Vega, qui elle est totalement alcoolique et dirige une casse dans ce fameux village.
Ok.
Et en fait, toute sa vie tranquille va voler en éclats quand son ami Triste va être retrouvé pendu. Et alors là, on va avoir un casting de flics pourris, d'entrepreneurs corrompus, véreux, de personnages hauts en couleur. Il y a un humour de dingue.
C'est sombre ou c'est un peu à la frère Cohen, un peu marrant.
Un peu à la frère Cohen, effectivement, avec des dialogues drôlissimes, une écriture. Et puis alors, à chaque chapitre, il balade son lecteur, il le surprend à toutes les pages quasiment. Et franchement, c'est un auteur à suivre. Là, c'est son premier roman traduit en français, mais j'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres.
Et ça se passe où, vous avez dit ? Dans quel pays ?
En Espagne. Ouais, dans un petit village paumé du centre de l'Espagne, je crois. Donc La sagesse de l'idiot, c'est, je vous encourage vivement.
Le titre est chouette,
ouais. Ouais, et le bouquin l'est non moins.
Traduit par Sébastien Routès. Merci beaucoup, Christophe Daniel. Héloïse Goua, c'est à vous.
Les amis, vous n'êtes pas sans savoir que du 6 au 9 juin prochain se dérouleront les élections européennes.
Ouais.
Alors, je le rappelle, cette élection a pour but d'élire les députés au sein du Parlement européen pour 5 ans. Et je suis sûre que, comme moi, enfin, en tout cas, j'espère que vous allez apprendre des choses, vous avez une idée assez vague de la fonction exacte de ces députés, peut-être même de la fonction plus généralement de l'Union européenne. Eh bien, je vous propose.
Ça sent le quiz.
Ah, vous me connaissez, vous commencez à me connaître. Je vous propose de tout comprendre avec cet album jeunesse, Leur Europe expliquée aux jeunes et aux moins jeunes. Comme ça, tout le monde est concerné, hein, Sébastien Bordenave. C'est illustré par Laure Monloubou, mais c'est surtout écrit par quelqu'un qui s'y connaît sûrement pas trop mal en Europe. François Hollande. Dans son avant-propos, cet ancien président de la République nous explique qu'il a voulu écrire ses livres pour convaincre les jeunes Européens de leur chance de vivre sur un continent en paix. Alors maintenant, comment ça marche ? Déjà, rappelez-moi, combien de pays membres compte l'Union Européenne ?
27.
Okay. Très bien. 27 nations qui, à partir des années 50, ont décidé de s'unir pour être plus fortes. En tout, ça fait quand même 450 millions d'habitants. Quelle est la devise de l'Europe ?
L'Union fait la force.
Non, ça c'est la Belgique.
Pas très loin.
Non. Ah.
Unie dans sa diversité.
Ah. Pas mal.
Ouais, elle est pas terrible, c'est vrai.
Faut la changer.
Ça
me rappelle que faut la changer.
Quel est l'hymne de l'Europe ?
L'hymne à la joie.
La Traviata. Oui.
L'ode à la joie. L'ode à la joie. Particulièrement de
Beethoven.
Bien joué. Bon, bah, ça va, il y a un petit niveau.
Ah, une petite pression quand même, parce que c'est des questions basiques.
Mais oui, mais pas de complexe, parce que moi, je ne les avais pas toutes les réponses. Parmi les choses que les enfants peuvent apprendre dans ce livre et qui rafraîchira bien la mémoire des parents, il y a notamment un chapitre sur l'Europe et les institutions. En gros, le fonctionnement de l'UE repose sur un triangle. Il y a d'abord le Conseil qui représente les États membres, la Commission qui défend l'intérêt général de l'Europe en créant des lois et le Parlement,
le gouvernement, quoi.
Voilà, c'est ça. Et puis le Parlement qui est la voix des citoyens à travers les 705 députés. Il faut bien retenir qu'au Conseil, quelle que soit la taille de sa population, le poids de son économie ou l'importance de son armée, chaque pays a les mêmes droits et son représentant a le même temps de parole. Cet album dense, fourmi d'infos et d'anecdotes, c'est très bien fait, très ludique. À chaque page, regardez à l'intérieur, il y a le dessin de la petite tête de François Hollande qui y va de son petit commentaire sur les bénéfices, mais aussi les limites de l'Union européenne. Leur Europe expliquée aux jeunes et aux moins jeunes de François Hollande et Laure Monloubou, c'est publié chez Glénat Jeunesse et j'ai appris plein de choses que j'avais oubliées parce que c'était pas hier que j'étais à l'école.
La collection s'appelle Quand ça va, quand ça va pas.
C'est ça.
J'aime bien.
Chez Glénat.
Sébastien Bordenave.
Et ben moi, une BD qui s'appelle Monstera de Simon Roure qui signe là sa deuxième BD. Le héros, c'est Gabriel. Son truc, faire du skate et aller dans les manifs quand au hasard des rues, il lui arrive ce qui vous arrive aussi à vous, hein, Nicolas. Quelqu'un l'aborde et lui dit, vous êtes déjà déjà envisagé de faire du mannequinat
tous les jours.
Tous les jours, Nicolas.
Alors Gabriel, le héros de la BD, va trouver là une occasion facile et efficace de payer son loyer. Sauf que dorénavant, eh ben, quand il va aller dans ses manifs à lui, eh ben, il y a des gens dans le cortège qui détruisent des abribus dans lesquels il y a des affiches de pub ou la photo du mannequin. Eh ben, c'est lui. Quelle mise en abîme. Ça va le questionner. Et il va rencontrer Lina, qui, elle, a des rapports compliqués avec son image, son corps, son alimentation. Une BD tout en noir et bleu. Les personnages sont dessinés filiformément avec des thèmes très actuels. Comment on se met en scène, notre rapport à nos abdos, surtout quand on n'en a pas. Une BD charismatique, forte à découvrir. C'est Monstera de Simon Rour chez Virage Graphique. Une BD de fort caractère.
Oh, c'est beau.
30 secondes pour une deuxième peut-être.
Allez, une BD très fleurie, très colorée, printanière. Ça s'appelle « Il y a longtemps que je t'aime » chez Casterman. Se retrouver naufragé sur une île déserte, bah, ça aide à l'introspection. C'est ce qui arrive à Annie. Elle faisait une croisière avec son mari et paf, le naufrage. Elle se retrouve seule dans une île. Quand tout à coup, derrière un arbre, il y a un jeune homme. Mais qui est-il? Pourquoi il ne parle pas? Et comment s'occuper quand on est plus un ado d'un côté et une femme qui avait un peu fait le deuil de la séduction de l'autre, sachant qu'il y a quand même une cabane à construire, un feu à faire, une BD qui mixe Koh-Lanta et Robinson Crusoe, sauf que Robinson, bah, c'est une femme qui veut enfin penser à elle. Très très chouette BD de Marie Spénal, ça s'appelle « Il y a longtemps que
hyper
je t'aime », très très belle, hyper
animée. J'adore les dessins.
Ouais. Très belle.
Merci beaucoup. Une petite... Attends, on fait quand même un petit tour pour les titres. Héloïse Goy.
L'heure Europe de François Hollande et Laure Montloubou chez Glénat Jeunesse.
Et Christophe Daniel, La sagesse de l'idiot.
Marteau Pariente en série noire chez Gallimard.
C'est parfait. Une petite citation pour terminer, Sébastien, s'il vous plaît.
Elle est piochée dans un truc en vrac de Gottlieb. On est en 77. Un personnage dit « Ah, c'est vous la doublure de l'agent double ?» L'autre dit « Oui, je suis la quadraplure.
» Gottlieb, magnifique, le génie. Merci à tous les trois, c'était le dernier chapitre de La Voix est libre pour cette semaine. Merci aussi à Agnès Vaudin, Boris Paczynski et Mathieu Fred, son acolyte. Je vous signale en passant